Groupe de travail Lutetium, Paris, Jacques Lacan, Le Saint-Homme, leçon du 9 décembre 1975, enregistrée le 16 décembre 2000.
C'est trop bien aujourd'hui. Lacan, 9 décembre 1975.
Allô, est-ce que vous entendez ici? Voilà. Ça ne peut pas durer comme ça. Je veux dire que vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux pour que enfin, j'espère tout de même obtenir de vous ce que j'ai obtenu du public des États-Unis où je viens d'aller. J'y ai passé 15 jours en plein. J'y ai passé 15 jours pleins et j'ai pu m'y apercevoir d'un certain nombre de choses, en particulier si j'ai bien entendu d'une certaine lassitude. Est ressenti principalement par les analystes. J'y ai été, mon Dieu, je ne puis que dire que j'y ai été très bien traité. Mais ce n'est pas dire grand-chose. Enfin, je m'y suis senti plutôt, pour employer un terme qui est celui dont je me sers pour il en est de l'homme, j'y ai été humé, ou encore, si vous voulez bien l'entendre, aspiré dans une sorte de tourbillon qui évidemment ne trouve son répondant que dans ce que je mets en évidence par mon nœud. C'est en effet pas par hasard, pas. C'est peu à peu que vous avez vu, enfin ceux qui sont là depuis un certain temps, que vous avez pu voir, c'est-à-dire entendre pas à pas comment j'en suis venu à exprimer par la fonction du nœud, ce que j'avais d'abord avancé comme triplice du symbolique, de l'imaginaire et du réel. le nœud est fait dans l'esprit d'un nouveau mode, non pas mœurs, d'un nouveau mode géométrique. Nous sommes en effet au départ toujours captivés par quelque chose qui est une géométrie que j'ai qualifiée la dernière fois de comparable au sac, c'est-à-dire à la surface. Il est très difficile, vous pouvez en faire l'essai, il est très difficile de penser choses qui s'opèrent le plus communément. Les yeux fermés, il est très difficile de penser au nœud. On ne s'y retrouve pas et je ne suis pas. C'est un nœud qui parle de ceci, que vous connaissez bien, à savoir ce qui fait dans un nœud borméen. Vous avez cette forme telle qu'à l'occasion elle se redouble et que vous devez la compléter par deux autres ronds. Il y a une autre façon de redoubler cette forme privée, en somme, De ceci qui ne va pas sans constituer de soi un cercle fermé. Par contre, la forme vous voyez que les deux circuits sont manipulables d'une façon telle qu'ils peuvent se libérer l'un de l'autre. C'est même pour ça que les deux cercles, le petit marqué en rouge, peuvent en constituer un nœud qui soit à proprement parler borroméen, c'est-à-dire qui, du fait de la section d'un quelconque, libère tous les autres. L'analyse est en somme la réduction de l'initiation à sa réalité. C'est-à-dire au fait qu'il n'y a pas à proprement parler d'initiation. Tout sujet y livre qu'il est toujours et n'est jamais qu'une supposition. Néanmoins, ce que l'expérience nous démontre, c'est que cette supposition est toujours livrée à ce que j'appellerais une ambiguïté. Je veux dire que le sujet comme tel est toujours non pas seulement double, mais divisé. Il s'agit de rendre compte de ce qui, de cette division fait le réel. En quoi Freud, puisqu'il nous faut y revenir, c'est lui qui a été le grand frayeur de cette appréhension. En quoi Freud, dont en somme, si j'ai bien lu, je crois d'ailleurs l'avoir bien lu, si j'en crois le dernier Erich Fromm, que vous pouvez vous procurer très aisément, si mon souvenir est bon chez Gallimard, qui s'intitule de quelque chose qui, au moins sur le dos du volume, s'énonce comme la psychanalyse appréhendée à travers son père, entre guillemets, c'est-à-dire par Freud. En quoi donc, si je l'ai bien lu, Freud, un bourgeois, et un bourgeois bourré de préjugés, a-t-il atteint quelque chose qui fait la valeur propre de son dire et qui n'est certes pas rien, qui est la visée de dire sur l'homme la vérité. À quoi j'ai apporté cette correction qui n'a pas été pour moi sans peine, sans difficulté, qu'il n'y a de vérité qu'elle ne puisse que se dire, tout comme le sujet qu'elle comporte, qui ne puisse se dire qu'à moitié, qui ne puisse, pour l'exprimer comme je l'ai énoncé, que se lui dire. Je pars de ma condition, qui est celle d'apporter à l'homme ce que l'Écriture énonce comme non pas une aide à lui, mais une aide contre lui. Et de cette condition, j'essaie de me repérer. C'est bien pourquoi j'ai été vraiment d'une façon qui vaudrait remarque. J'ai été conduit à cette considération d'une qui, comme je viens de vous le dire, est à proprement parler constitué par une géométrie qu'on peut bien dire interdite à l'imaginaire, qui ne s'imagine qu'à travers toutes sortes de résistances, voire de difficultés. C'est à proprement parler ce que le nœud entend qu'il est borroméen substantifié. Si nous partons en effet de l'analyse, nous constatons cette autre chose que d'observer. Une des choses qui m'ont le plus frappé quand j'étais en Amérique, c'est ma rencontre, qui était certes pas par hasard, qui était tout à fait intentionnelle de ma part, c'est ma rencontre avec Chomsky. J'en ai été à proprement parler, je dirais, soufflé. Je le lui ai dit. L'idée dont je me suis rendu compte qu'elle était la sienne, est en somme celle-ci. Dont je ne peux pas dire qu'elle soit d'aucune façon réfutable. C'est même l'idée la plus commune. Et c'est bien qu'il est devant mon oreille simplement affirmer qui m'a fait sentir toute la distance où j'étais de lui. Cette idée qui est l'idée en effet commune est celle-ci. Celle-ci qui me paraît précaire. La considération en somme de quelque chose qui se présente comme un corps conçu comme pourvu d'organes, ce qui implique dans ses conceptions que l'organe est un outil. Outil de prise, outil d'appréhension, et que il n'y a aucune objection de principe à ce que l'outil s'appréhende lui-même comme tel. Que par exemple, le langage soit considéré par l'outil comme déterminé par un fait génétique. Il l'a exprimé en ses propres termes devant moi. En d'autres termes, le langage soit lui-même un organe. Il me paraît tout à fait saisissant ce qui est exprimé par le terme souffle. Il me paraît tout à fait saisissant que de ce langage on puisse faire retour sur lui-même comme organe. Si le langage n'est pas considéré sous ce biais, qu'il est lié, qu'il est lié à quelque chose, et si dans le réel c'est trop, il n'est pas simplement difficile, il est impossible d'en considérer le maniement. La méthode d'observation ne saurait partir du langage sans admettre cette vérité principielle que dans ce qu'on peut situer comme réel, le langage n'apparaisse comme faisant trou. C'est de cette notion, fonction du trou, que le langage opère sa prise sur le réel. Il ne met, bien entendu, pas aisé de faire peser de tout son poids cette conviction sur vous. Elle m'apparaît inévitable de ce que il n'y a de vérité comme telle possible que d'éviter le réel. Le langage, qui d'ailleurs mange ce réel, veut dire qui ne permet d'aborder ce réel quand ce réel génétique, pour parler comme Chomsky, qu'en termes de signes, ou autrement dit de messages, qui par du gène moléculaire, en le réduisant à ce qui a fait la renommée de Crick et de Watson, à savoir cette double hélice d'où sont censés partir ces divers niveaux qui organisent le corps à travers un certain nombre d'étages, qui sont d'abord de la division, du développement, de la spécialisation cellulaire, puis ensuite de cette spécialisation à partir des hormones qui sont autant d'éléments sur lesquels se véhicule pour la direction de la formation organique autant de sortes de messages. Toute cette utilisation de ce qu'il en est du réel par tant dit de messages, mais où ne se marque que le voile porté sur ce qu'il en est de l'efficace du langage. c'est-à-dire sur ceci, que le langage n'est pas en lui-même un message, mais ne se substance que de la fonction de ce que j'ai appelé le trou dans le réel. Il y a pour cela la voie de notre nouveau mode géométrique, c'est-à-dire que la substance qui résulte de l'efficace propre du langage et qui se supporte de cette fonction du trou. Pour l'exprimer en termes de ce fameux nœud des Roms borroméens où je me cite, disons que il repose tout entier sur l'équivalence d'une droite infinie avec un cercle. Je veux dire ceci, tout autant que le dessin ordinaire est à proprement parler un nœud borroméen. De ce fait,
il est également vrai
avec un cercle, on obtient le même nœud bornéen. Il y a quelque chose qui répond de ce chiffre 3 qui est l'enrée, si je puis dire, d'une exigence laquelle est à proprement parler l'exigence propre du nœud. Elle est liée à ce fait que pour rendre compte correctement du nœud borroméen, c'est à partir de 3, c'est spécialement s'origine une exigence. Elle est possible avec une manipulation portable de rendre trois droites infinies parallèles. Il suffira pour ça. D'assouplir, on dirait, ce qu'il en est du faux cercle, des arrivées, le cercle en rouge dans ce potentiel. C'est à partir de 3 qu'il nous faut définir ce qu'il en est du point à l'infini de la droite, comme ne prétend pas, ne prétend en aucun cas à faire faute à ce que nous pouvons appeler leur concentricité. Je veux dire que avec 3 points à l'infini, ce sont les par exemple, doivent être de quelque forme que nous les supposions, et nous pouvons aussi bien inverser cette position, je veux dire faire que cette première droite à l'infini, c'est-à-dire soit par rapport aux autres enveloppante, au lieu d'être enveloppé. C'est la caractéristique de ce point à l'infini, c'est de ne pouvoir être situé, comme on pourrait s'exprimer, d'aucun côté. Mais ceci est exigible à partir de on doit énoncer, préciser, de ces trois droites complétés de leur point à l'infini, il ne s'en trouvera pas une, tant que bien les raisons pour lesquelles je dis il n'y en aura pas une qui est enveloppée par l'autre, se trouvera enveloppante par rapport à l'autre, car c'est proprement parler ceci qui constitue la propriété du nœud borroméen. J'ai maintes fois familiarisé avec ceci, c'est que le nœud borroméen, si l'on peut dire, dans la troisième dimension, consiste dans ce rapport qui fait ce qui est enveloppé par rapport à l'un de ces cercles qui se trouve enveloppant par rapport à l'autre. C'est dans cela que exemplaire de ce que vous voyez ordinairement la forme de la terre arrière dont on est cette sorte se présente toujours d'un à savoir que pour tracer une terre, le cercle bleu qui va toujours se rabattre de la façon suivante autour du cercle qui est de dessiné en vert, et que enfin le cercle rouge selon le rabattement par contre, la différence entre ce cercle et cette disposition ordinaire dans tout manipulation de la sphère armillaire se trouvera distancée disons ce cercle qui apparaît ici moyen ce cercle qui est situé la disposition suivante savoir il ne pourra pas rabattre parce que il sera enveloppant par rapport au cercle rouge et enveloppé par rapport au cercle vert. Le revêtement Bleu et au cercle rouge. Même mes hésitations sont ici significatives. Elles manifestent la maladresse avec laquelle nécessairement ce qu'il en est du nœud borroméen, type même du nœud, est manipulé. Le caractère fondamental de cette utilisation du nœud et de permettre d'illustrer la triplicité qui résulte d'une consistance qui naît affectée que de l'imaginaire. D'un trou comme fondamental qui ressortit au symbolique. Et d'autre part, d'une existence écrite comme je le fais, E-X-S-I-S-T-E-N-T-E, qui elle, appartient au réel, qui en est le caractère fondamental. Cette méthode, puisqu'il s'agit de méthode, est une méthode qui se présente comme sans espoir, d'aucune façon de rompre le nœud constituant du symbolique, de l'imaginaire et du réel. À cet égard, elle se refuse ce qui constitue, il faut le dire, et d'une façon tout à fait lucide, une vertu une vertu même dite théologale, c'est en cela que notre appréhension analytique de ce qu'il en est de ce neuf est le négatif de la religion. On ne croit plus à l'objet comme tel. Et c'est en ceci que je nie plus que l'objet puisse être saisi par aucun organe, puisque l'organe en lui-même est aperçu comme un outil. Et étant aperçu comme un outil séparé, il est à ce titre conçu comme un objet. Dans la conception de Chomsky, l'objet n'est lui-même abordé que par un objet. C'est à la restitution en tant que telle du sujet, en tant que lui-même, ne peut être que divisé par l'opération elle-même du langage, que l'analyse trouve sa diffusion. Elle trouve sa diffusion en ceci qu'elle met en question la science comme telle. Science pour autant qu'elle fait d'un objet, qu'elle fait d'un objet un sujet, alors que c'est le sujet qui est de lui-même divisé. Nous ne croyons pas à l'objet, mais nous constatons le désir, et de cette constatation du désir, nous induisons la cause comme objective. Le désir de connaître rencontre des obstacles. C'est pour incarner cet obstacle que j'ai inventé le nœud, et que au nœud il faut se rompre. Je veux dire que c'est le nœud seul qui est le support concevable d'un rapport entre quoi que ce soit et quoi que ce soit, que le nœud, s'il est abstrait d'un côté, doit être pensé et conçu comme concret. Ce dans quoi, jusqu'aujourd'hui, vous voyez bien, je suis fort là de cette épreuve américaine. Et comme je vous l'ai dit, j'ai été certainement récompensé, car j'ai pu ces figures que vous voyez ici, plus ou moins substantialisées par l'écrit, par le dessin, j'ai pu en faire ce que j'appellerais agitation, émotion. Le senti comme mental, le senti mental, est débile, parce que toujours par quelques biais, réductible à l'imaginaire. L'imagination consistante va tout droit. Ah, l'impossible de la cassure. Mais c'est en cela que la cassure peut toujours être le réel. Le réel comme impossible, et qui n'en est pas moins compatible avec la dite imagination et la constitue même. Je n'espère pas d'aucune façon sortir de la débilité que je signale de ce départ. J'en sors comme quiconque que dans la mesure de mes moyens, c'est-à-dire comme sur place, sur ne s'assurant d'aucun progrès vérifiable autrement qu'à la longue. C'est de façon fabulatoire que j'affirme que le réel, tel que je le pense dans mon pense-se, dans mon pense léger, ne va pas s'en comporter réellement. Le réel m'entend effectivement s'en comporter réellement. Le trou qui subsiste de ce que sa consistance ne soit rien de plus que celle de l'ensemble du nœud qu'il fait avec le symbolique et l'imaginaire. Nœud qualifiable du borroméen, soit intranchable, sans dissoudre, le mythe qu'il rend du sujet comme non supposé, c'est-à-dire comme réel, pas plus divers que chaque corps, signalable du par l'être, corps qui n'a de statut respectable au sens commun du mot que de ce nœud. Alors, après cette épuisante tentative, j'attends de vous que j'ai reçu plus aisément qu'ailleurs en Amérique, à savoir que quelqu'un me pose à propos d'aujourd'hui une question, quelle qu'elle soit, même si elle manifeste que dans mon discours d'aujourd'hui, discours que je reprendrai la prochaine fois, en abordant ceci, que Joyce se trouve d'une façon privilégiée, avoir visé par son art le quart terme, celui que de diverses façons vous voyez là figurer, qu'il s'agit du rond rouge tout à l'extrême à droite, ou qu'il s'agit aussi bien du rond noir ici, et qu'il s'agit encore de ce que vous voyez de toute façon particulière en ce livre, c'est toujours le même cercle qui trouve ici, une position spéciale.
à savoir deux fois un peu, c'est-à-dire pris d'une façon correspondante.
C'est le coinçage essentiellement qui s'agit. C'est donc de Joyce que ce quatrième terme, en tant qu'il complète le nœud de l'imaginaire, du symbolique et du réel, que j'avancerai ici, que par son art. Et c'est là tout le problème. Comment un art peut-il vivre de façon expressément divinatoire à substantialiser dans sa consistance, comme telle, mais aussi bien son existence et aussi bien troisième terme qui est le trou, commence par son art, quelqu'un a-t-il pu viser à rendre comme tel, au point de l'approcher d'aussi près qu'il est possible, ce quatrième terme, celui à propos de quoi ? Aujourd'hui, j'ai voulu simplement vous montrer qu'il est essentiel au nœud borroméen lui-même. J'attends donc que s'élève une voix, quelle qu'elle soit. Alors, qu'est-ce qui a pu vous paraître discutable lorsque j'ai avancé le pour ça que j'ai été soufflé, c'est certain. Oui. Mais ça ne veut pas dire que on a toujours cette sorte de faiblesse, n'est-ce pas? y a un reste d'espoir. Je veux dire que Chomsky, s'occupant de linguistique, je pouvais espérer voir une pointe d'appréhension de ce monde concernant le symbolique, c'est-à-dire qu'il garde, même quand il est faux, quelque chose du trou qu'il est impossible, par exemple, de ne pas qualifier ce faux trou, l'ensemble est constitué par le symptôme et le symbolique. Mais que d'un autre côté, c'est en tant qu'il est accroché au langage que le symptôme subsiste, au moins, nous croyons que par une manipulation dite interprétative, c'est-à-dire en jouant sur le sens, nous pouvons modifier quelque chose du symptôme. Cette assimilation chez celle-ci est quelque chose qui, à mes yeux, est de l'ordre du symptôme. C'est-à-dire qu'il confond le symptôme et le réel. C'est très précisément ce qui m'a dit ici. Comment c'est pour vous? L'oiseau. Oui, vous êtes américain et je vous remercie. Je constate simplement qu'il y a une fois de plus qui passe un américain pour m'interroger. Enfin, je ne peux pas dire combien j'ai été comblé, si je puis dire, par le fait qu'en Amérique, j'ai eu des gens qui me témoignaient par quelque côté que j'avais, enfin, que mon discours n'était pas vain, n'est-ce pas? Mais quoi, il n'est pas bête du tout, hein? Oui. Pardon? Je vais chercher une réflexion. Ce que je peux attendre de quelqu'un de français, quelque chose qui... Enfin, qui... La propos de l'alternance. C'est donc il s'agit. Il est tout de même très difficile de ne pas considérer le réel dans cette occasion comme un tiers. Et disons que ce que je peux solliciter comme réponse appartient à ceci qui est un appel au réel, non pas comme lié au corps, mais comme différent. Loin du corps, il y a possibilité de ce que j'appelais la dernière fois résonance, consonance. Que c'est au niveau du réel que peut se trouver cette consonance. Que le réel, par rapport à ces pôle que constitue le corps et d'autre part le langage, que le réel est là ce qui fait accord. Est-ce que je peux attendre, oui, de quelqu'un d'autre?
Vous parliez d'un effet de mixage, ça me devait souffler. Et je me demandais si ça ne serait pas vrai que vous, ce que vous dites. Donc vous faites un langage qui est une vidéo. Je pense au mythe de la lamelle. Et je me demande si vous n'allez pas le ciel par lequel peut se poser ici précisément la question de l'art. C'est-à-dire, je me demande si ce déplacement de la langue que m'était présent à l'esprit lorsque vous en avez parlé, n'est pas ce par quoi on peut saisir Encore si c'est là, parce que avoir tout qui nous a écarté l'idée de mettre un écart entre le langage et l'organe, ça ne peut se récupérer dans le sens d'un art, si on ne prend que tout l'organe au niveau de l'art, vous le mettez de l'individu. C'est pas simple, je veux dire, parce que l'individu comme organe, c'est pas. Et de quoi d'autre part, c'est étonnant, c'est que.
L'individu, comme son nom l'indique, ne peut être qu'un que participant du trou, tout autant que des autres. Que des autres modes sous lesquels se présente ce corps est réel d'autre part, n'est-ce pas? Oui.
Ce qui est curieux, c'est que
c'est évidemment par là que j'essaie de rejoindre la fonction de l'art. C'est en quelque sorte impliqué par ce qui est laissé en blanc comme quatrième terme, n'est-ce pas? Et quand je dis que l'art peut même atteindre le symptôme, c'est ce que je vais essayer de substantialiser, et c'est à juste titre que vous évoquez le mot du lamelle. C'est tout à fait dans la bonne note, et je vous en remercie. C'est dans ce fil que j'espère continuer.
Or, cette image, aujourd'hui, elle me semble pouvoir fonctionner comme celle de la corde, qui est ce qu'on appelle un mètre résonant, et qui ondule, c'est-à-dire qui fait un ventre. Vous
voulez
savoir si
c'est pour votre. Non, mais ce n'est pas pour rien que dans une corde, la métaphore vient de ce qui fait mieux. Ce que j'essaie, c'est de trouver à quoi serait sert cette métaphore. S'il y a dans une corde vibrante des ventres et des nœuds, c'est pour autant que c'est aux nœuds qu'on se réfère. Je veux dire que on utilise du langage d'une façon qui va plus loin que ce qui est effectivement dit. On réduit toujours la portée de la métaphore comme telle, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on la réduit à une étonnée. C'est tout à fait exact, il n'y est plus de la note. Il n'est connu que par le symptôme.
Dans cette perspective, le réductoire, le cube en matière d'analyse, semble poser un problème.
Il n'y a aucune réduction radicale du quatrième terme. C'est-à-dire que même l'analyse, puisque Freud, on ne sait pas par quelle voie a pu l'énoncer, il y a une ouverture, il y a un refoulement qui n'est jamais annulé. Il est de la nature même du symbolique de comporter ce trou. Et c'est ce trou que je vise quand je reconnais dans l'Ursa Dragon elle-même.
J'entends vous parler de l'Ursa Dragon.
Il ne costituit pas un modèle pour le mode. Il y a quelque chose près de quoi l'imagination défaille. Je veux dire qu'elle résiste à proprement parler comme telle à l'imagination du lieu. Son abord mathématique dans la sociologie est insuffisant. Je peux quand même vous dire, enfin, je sais pas, mes expériences de ces vacances.
Je suis obstiné à penser à la façon dont ceci qui constitue un nœud, non pas un nœud entre deux éléments. Comme vous le voyez, il n'y en a qu'un seul.
Comment ce nœud dit nœud à trois, le nœud plus simple, le nœud que vous pouvez faire,
c'est le même que celui-ci. Le nœud que vous pouvez faire avec n'importe quel corps de l'âme,
c'est le même nœud, quoiqu'il n'ait pas le même aspect. Je me suis attaché à penser à ce nœud dont j'avais fait, disons, la trouvaille.
À savoir qu'avec ce nœud, tel qu'il est montré là,
il est facile de démontrer qu'il existe un nœud borroméen. Il suffit de penser que vous pouvez rendre sous-jacent sur une surface qui est cette surface double sur laquelle nous ne saurions écrire quoi que ce soit concernant les nœuds. Sur une surface donc sous-jacente, vous mettez le même nœud. Il est très facile de réaliser, je veux dire par une écriture, ce qui, quand j'en passe,
c'est très difficile. Je veux dire à chaque étape.
Un troisième lieu à trois. Effectivement, c'est facile ça à imaginer. Ça s'imagine pas tout de suite. Il a fallu que j'en fasse la trouvaille. Pour passer un mot homologue. Si le mot sous-jacent est sûr à chaque étape, le mot que j'appellerai la surjacente, ce qui donc réalise aisément un nom borromien. Y a-t-il possibilité avec ce nom à trois de réaliser un nom borromien à quatre? J'ai passé à peu près 2 mois à me casser la tête sur cet objet. Et bien là, le cas de le dire, je n'ai pas réussi à démontrer qu'il existe une façon de nouer quatre nœuds à trois d'une façon jordanienne. Eh bien, ça ne prouve rien. Ça ne prouve pas qu'il n'existe pas. Encore hier soir, enfin, je n'ai pensé qu'à ça, si j'avais pu y arriver à vous le démontrer qu'il existe. Ce qu'il y a pire, c'est que je n'ai pas trouvé la raison démonstrative de ce qui n'existe pas. Simplement, j'ai échoué. Car même cela, que je ne puisse pas montrer que ce n'est pas à quatre nœuds à trois en tant que Boromir. Et si que je ne puisse pas le montrer ne prouve rien. Il faut que je démontre qu'il ne peut exister. En quoi c'est impossible, un réel sera assuré. Le réel constitué par ceci, qu'il n'y a pas de nœud boromien qui constitue de quatre nœuds à trois. Ça serait là toucher un réel. Pour vous dire ce que j'en pense toujours avec ma façon de dire que c'est mon sens, ceci, je crois qu'il existe. Je veux dire que ce n'est pas là que nous goûterons à un réel. Je ne désespère pas de le trouver. Mais c'est un fait que je ne peux rien. Parce que dès que ça serait démontré, ça serait facile de vous le montrer. Mais il est un fait aussi que je ne peux rien de tel vous montrer. Le rapport montré ou démontré est là nettement séparé. C'est un passant pour un con,